D'habitude, c'est un culte particulier. D'abord, je voudrais saluer celles et ceux qui, parmi vous, venaient peut-être pour la première fois, avec deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que le culte est certes un peu plus long, mais il est suivi d'un repas, donc vous ne mourrez pas de faim. Vous pouvez rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Et la deuxième, c'est que, comme c'est un culte un peu particulier, si vous voulez vraiment voir à quoi ressemble notre Église dans son jus, ben, il va falloir revenir. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais l'émotion a été grande à l'Assemblée nationale cette semaine. Est-ce qu'on peut passer la vidéo ?
Qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences.
Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase ?
Voilà, qu'il retourne en Afrique. La sortie du député Grégoire de Fournas n'a pas manqué de faire réagir. La grande question qui s'est posée ensuite, notamment sur les réseaux sociaux, fut de savoir si ce député parlait des migrants qui faisaient l'objet de la question au gouvernement du député de la France insoumise, là, Carlos Martins Bilongo, ou s'il parlait de M. Bilongo lui-même du fait de sa couleur de peau. Alors je vous propose de prendre un peu de recul pour voir depuis en haut ce qui se passe en bas. Parce qu'en vérité, je vous le dis, Jésus-Christ nous sauve de ce genre de débat. On va aller à Corinthe. Je suis un peu embêté parce que je n'ai pas assez de place. On va aller à Corinthe. On est au début de l'ère chrétienne. Et Corinthe, c'est le moins qu'on puisse dire, a mauvaise réputation. Elle a des mœurs légères, très légères, plus que légères, et sans vous faire un dessin, on y pratiquait par exemple la prostitution sacrée. Au 1er siècle de notre ère, Corinthe est une colonie romaine. Mais comme souvent avec les villes portuaires, elle est cosmopolite, on y trouve des Grecs et des Romains, évidemment, mais on y trouve aussi des Juifs, des gens qui viennent des provinces d'Asie, des Égyptiens. Et tous ces gens, bien sûr, sont arrivés avec leur bagage religieux. C'est donc une ville aux croyances multiples, aux lieux de culte nombreux, à la spiritualité bigarrée. Les dieux s'y côtoient. Et au milieu de cette ambiance colorée, diverse, vous avez l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ça pose une communauté, ça. L'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est comme ça que Paul s'adresse aux chrétiens qui sont présents sur place. Et ce qu'il leur dit au chapitre 12 de sa première lettre est d'utilité publique, et c'est ce qu'on va aller lire maintenant en lisant les versets 1 à 13. On est donc en 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 13. « Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, dit Paul, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus, et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous avez entendu comme moi, non ? Dans cette Corinthe diverse, vous l'avez entendu. Qu'il retourne en Égypte, qu'il retourne en Asie. Pourquoi est-ce qu'on s'enquiquinerait avec ces gens-là qui ne sont pas comme nous ? Créons-nous des communautés par origine, par couleur de peau, par statut social, par don spirituel ? Du fin fond de cette Corinthe aux mille couleurs, c'est bien ce que nous dit Paul, non ? Alors non, hein, bien sûr. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui nous unit et qui surpasse toutes les divisions humaines. Il y a une petite curiosité exégétique au verset 1. Contrairement à ce que beaucoup de traductions laissent entendre, ce verset ne parle pas des dons spirituels. Le mot « don » n'apparaît pas dans le texte. Textuellement, Paul dit « pour ce qui concerne les... » Comment on pourrait dire ça ? Littéralement, ça serait pour ce qui concerne les spirituels. Et on ne sait pas exactement à quoi il se réfère. Donc, c'est probablement aux dons. C'est pour ça que beaucoup de traductions mettent les dons. Mais il y a aussi, moi j'ai lu dans ma version, c'est les pratiques. Vous avez peut-être d'autres mots qui sont là. On pourrait utiliser un terme plus neutre en disant pour ce qui concerne les choses spirituelles. Je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et puis, il établit un contraste. Lorsque nous étions sans Dieu, nous dit-il au verset 2, nous nous tournions vers des idoles muettes, chacun la sienne, chacun dans sa maison, avec son petit Dieu personnel. Votre idole, c'était peut-être votre identité nationale. Moi, je suis français, les amis. Ou votre identité de genre. Moi, je suis un homme, un vrai. Ou votre statut social. Je suis cadre. Ça en jette. Ces trois-là, je ne les prends pas au hasard, je les prends parce que ce sont celles que Paul fait voler en éclats en Galates 3:28 quand il dit « En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre. » Et naturellement, ça ne veut pas dire que nos identités sont abolies, mais ça veut dire qu'il y en a une qui dorénavant les surpasse toutes, notre identité d'enfant de Dieu. Parce que l'Esprit Saint nous a fait tourner notre regard toutes et tous vers le Très-Haut, et que tous ensemble, nous disons d'un même cœur, Jésus est le Seigneur. Et la conséquence de ça, on la voit au verset 4 à 6, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et là, vous avez le mot don qui apparaît. Plus exactement, c'est le mot charisme. Un charisme, c'est un cadeau du ciel. C'est un don particulier que le Seigneur nous fait pour l'édification commune. Le mot « service » apparaît également, plus exactement c'est le mot « diaconie ». On a un conseil diaconal dans l'Église. La diaconie, c'est le mot grec pour le « service ». Et finalement, le mot « opération » apparaît, et en grec c'est le mot « energema » qui a donné le mot « énergie » en français. C'est ce qui nous met en mouvement, autrement dit, ce sont nos activités, c'est ce qu'on fait. Et que nous dit Paul ? Eh bien, il nous dit... dans une belle formulation trinitaire d'ailleurs, qu'il y a une grande diversité de dons parmi nous, de services, d'activités, mais que c'est le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu qui opère tout en tous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Est-ce que vous connaissez le principe de l'homéostasie ? Quelqu'un sait ce que c'est l'homéostasie ? Non ? Eh bien, on va nous l'expliquer. On peut mettre la vidéo.
Pour toi, la situation là est extrêmement simple. Tu es assis sur ta chaise ou allongé sur ton lit. T'es bien, t'es tranquille. Mais pourquoi t'es bien et t'es tranquille ? Tout ça est créé par un ensemble de mécanismes. Un ensemble de mécanismes organiques complexes qui se réalisent en ce moment même pour créer un équilibre en toi. Cet équilibre s'appelle l'homéostasie. Boum ! Premier mot compliqué, mais vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça. L'homéostasie, c'est quoi? C'est le processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur, entre les limites des valeurs normales. En gros, il conserve un état d'équilibre. Si cette homéostasie est maintenue, tout va bien. Si ça va pas, ton état physique se dégrade.
Autrement dit, il y a dans notre corps différents éléments qui s'autorégulent pour fonctionner ensemble en bonne intelligence. Et c'est cette harmonie de fonctionnement qui fait que nous sommes en bonne santé. Un exemple typique d'homéostasie, c'est la température d'une pièce qui est régulée grâce à un thermostat. Le thermostat fait office de régulateur. Et si la température pour une pièce, c'est important, imaginez pour un corps vivant. En fait, s'il entre en hypothermie ou si à l'inverse, il est en hyperthermie, c'est son existence même qui est en péril. Et l'Église, frères et sœurs, est un corps vivant. Et elle a son principe régulateur. Elle a son thermostat. Notre thermostat dans l'Église, Paul nous le donne au verset 7. Il nous dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Il est là, notre thermostat. Notre thermostat, c'est l'utilité commune. Nos charismes, notre service, nos activités ne sont pas des égotripes destinés à se faire plaisir, chacun dans son coin. Ils ont un but, nous avons un but commun, et ce but, c'est l'édification de l'Église. Quand chacun met ses dons au service de l'Église, quand chacun fait ce à quoi Dieu l'appelle, quand chacun œuvre pour le Seigneur dans les tâches les plus grandes comme dans les tâches les plus humbles, l'homéostasie fonctionne à plein régime et l'Église est en bonne santé. Alors sur le papier, c'est très beau. Mais dans la réalité, ça souffle un peu. Bien des siècles avant la naissance de Jésus, il y a un prophète, Joël, qui avait annoncé ce que Dieu ferait à la Pentecôte. Et voilà ce qu'il dit, Joël 3, versets 1 et 2. « Après cela, je répandrai mon souffle sur tous. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. » Même sur les esclaves et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon souffle. Et nous, à ça, on dit « Amen ». Mais quelle merveille! Le Seigneur a soufflé à la Pentecôte, il a répandu son esprit et ça déménage. Ça déménage tellement que les croyants de Corinthe se regardent les uns les autres un peu soupçonneux. Parce que autant reconnaître pour soi-même le don de l'esprit, ça va, c'est assez facile, grosso modo en tout cas. Autant comprendre que ce même esprit se manifeste différemment chez les autres, ça, c'est une autre paire de manches. Alors, Paul explicite. D'abord, il explicite que ça n'est pas parce que ton don est singulier, peut-être tu es styliste. Qu'est-ce qu'on fait d'une styliste dans l'Église, franchement ? Hein, c'est vrai. Peut-être que tu as fait une école d'agriculture. À quoi ça sert dans l'Église, l'agriculture ? Ça n'est pas parce que ton don est singulier que tu ne fais pas partie du corps. On le voit au verset 15, on ne l'a pas lu, mais vous pouvez suivre dans vos Bibles. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Après, il explicite que nous sommes tous et chacun utiles au corps, nécessaires à l'homéostasie. Il le dit au verset 17 à 20. « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ?» En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. Et puis, Paul explicite que nous avons tous besoin les uns des autres. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Donc, il nous faut regarder les dons et les talents des uns des autres avec bienveillance. Il nous faut également accepter que nous n'avons pas à nous tout seuls tous les dons et les talents. Et enfin, il nous faut accepter qu'il est normal que tous les chrétiens ne fassent pas comme nous. Ce qui est important, c'est l'homéostasie. C'est que chacun, depuis sa place, à partir des dons et des talents que Dieu lui a confiés, œuvre à l'utilité commune. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un point particulier, ça sera le dernier, un point qui est essentiel à l'homéostasie et à la bonne santé du corps du Christ. Et ça commence par une question bizarre. Est-ce que vous regardez souvent vos pieds ? Est-ce que vous entretenez une relation particulière avec vos pieds ? Est-ce que vous leur parlez, peut-être ? Est-ce que vous leur envoyez du courrier ? Est-ce que vous prenez de leurs nouvelles de temps en temps? C'est amusant de voir comme l'annonce de l'Évangile dans le Nouveau Testament est associée aux pieds. Éphésiens 6, verset 15, « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'Évangile de paix. » Romains 10, verset 15, qui reprend Ésaïe 52, verset 7, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et Ésaïe précise même « de ceux qui annoncent le salut, qui disent « ton Dieu règne ». Ils sont beaux les pieds de nos missionnaires. » On pourra vérifier peut-être cet après-midi si vous voulez. « Ils sont beaux les pieds de nos missionnaires. » Mais parfois, ils sont loin. Et de quoi est-ce qu'ils sont loin? Ben, anatomiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les pieds sont les membres du corps qui sont les plus éloignés des yeux. Et vous savez ce qu'on dit, non? Loin des yeux, loin du cœur. Est-ce qu'on peut mettre la dernière vidéo?
Loin des yeux, loin du cœur. Derrière ce cliché se cache une réalité neuroscientifique. Les études sont catégoriques. Le regard joue un rôle primordial dans les interactions sociales et surtout les relations amoureuses. Des psychologues américains ont étudié 80 couples en laboratoire. Ils leur ont tout d'abord demandé de remplir des questionnaires pour évaluer l'intensité de leur amour. Évidemment, tout cela est un petit peu subjectif, mais cela leur a permis de séparer les couples en deux groupes, les follement amoureux et les moyennement amoureux. On leur a ensuite demandé de s'installer face à face à une table et de lire un extrait de livre, devinez sur quoi? Sur le couple, bien sûr. Ils devaient en discuter ensemble. Pendant ce temps, ils étaient scrutés à leur insu par un observateur qui avait pour mission de comptabiliser le nombre de regards échangés. Résultat, les couples les plus amoureux passent jusqu'à deux fois plus de temps les yeux dans les yeux par rapport aux couples moyennement amoureux. Il existerait donc bien un lien entre échange visuel et intensité de l'amour.
Nathan et Loïs, les deux pieds missionnaires de notre Église sont loin. Alors si j'étais député, je dirais bah, qu'ils retournent en Afrique. Hein. Mais je ne suis pas député. Je suis membre du même corps qu'eux. Nathan est membre de notre Église, et si ça ne tenait qu'à moi, Loïs le serait également. Vous savez, j'ai fait le chemin de Compostelle, et s'il y a une chose que le corps tout entier comprend assez vite lors d'une marche au long cours, c'est que les pieds ont besoin d'être particulièrement bien soignés, parce qu'ils sont durement sollicités, parce que alors que la tête et les mains se réjouissent autour d'un bon repas le soir, les pieds, eux, restent sous la table. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, ils seront avec nous sur la table, autour de la table. Sauf que si les pieds lâchent, c'est tout le corps qui s'arrête. Alors, je vais maintenant inviter toutes celles et tous ceux qui sont membres du corps du Christ, toutes celles et tous ceux qui peuvent dire sans sourciller « Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur » à répondre à l'appel du Christ qui nous invite à sa table. On va prendre la Sainte Seine. Je vais demander à 3-4 personnes de me rejoindre, s'il vous plaît, pour la distribution. Il va falloir un peu d'aide. Est-ce que des gens veulent bien se lever? Deux. Il va en manquer un. Deux. Oui. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre la Sainte Seine et durant ce temps de Sainte Seine, on va prendre soin de nos pieds. On va utiliser ce temps pour intercéder pour Nathan, pour Loïs, pour Timaël, pour Aïna. On peut aussi intercéder pour les autres missionnaires qui ont été nommés ici et cités ici. Mais vraiment, on veut prier en particulier pour eux, déjà parce qu'ils sont parmi nous aujourd'hui, et puis aussi parce qu'ils ont cet attachement particulier à notre communauté. Et ensuite, maintenant que nous savons qu'il y a un lien entre l'amour qu'on se porte les uns les autres et le regard, les échanges de regards, eh bien, je propose qu'on prenne un soin tout particulier à regarder notre belle famille missionnaire et à les entourer d'aussi près que lorsque Nathan habitait Challes-les-Eaux, parce qu'il a habité Challes-les-Eaux, si vous ne le saviez pas. Voilà. Alors, on va passer à ce temps de Sainte-Seine. Et on est presque dans le même chapitre, puisque c'est 1 Corinthiens 11, où Paul nous dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Seigneur, nous nous présentons devant toi à nouveau en ayant pleine conscience que c'est par les mérites de ton Fils. Nous avons pleine conscience, Seigneur, que nous ne méritons pas de partager ce pain, de partager ce fruit de la vigne. Nous savons que c'est un cadeau que tu nous fais, un cadeau rendu possible par le sacrifice de ton Fils à la croix. Parce que nous sommes pécheurs, nous le reconnaissons. Parce que notre péché nous sépare de toi, nous le reconnaissons. Mais tu nous fais ce cadeau, Seigneur, avec ton Fils à la croix, d'avoir pris sur toi la condamnation qui pesait sur nous. Et tu as rendu possible à nouveau la communion. Seigneur, en prenant ce pain, en prenant ce fruit de la vigne, ce jus de raisin ici, nous voulons réaffirmer que nous t'appartenons, que tu es notre Seigneur, notre Sauveur, que nous te faisons confiance, que ta parole est plus fiable que la nôtre. Seigneur, nous voulons aussi nous associer les uns aux autres, parce que tu as fait de nous un seul corps, et en particulier aujourd'hui, nous voulons nous associer à Nathan, Loïs et les enfants, qui sont cette partie du corps qui est la plus loin de nos yeux, mais dont nous ne voulons pas qu'elle soit loin de notre cœur. Nous te prions de les bénir dans ce temps en particulier et que vraiment ta présence se fasse sensible pour eux aussi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à distribuer. Et puis, pendant le temps de la distribution, pendant le temps de cette sainte scène, on peut intercéder pour Nathan, Loïs, les enfants.
Profond de leur cœur et qu'ils puissent voir encore leur mission là.